Sud Radio, parlons immo, Sylvain Lévy-Valency.
Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec toute l'équipe de Parlons Immo. Bonjour Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour Jean-Marie, puis bonne année.
Bonne année, meilleurs vœux à vous. C'est vrai qu'on ne s'était pas vus d'ici là, depuis le temps. On est aussi avec toute votre équipe, Bérénice Deville, Florio Grégoire, Darico. On accueillera votre invité. On parle de quoi aujourd'hui?
Ben écoutez, il n'a échappé à personne, mon cher Jean-Marie, à vous toutes et tous qui nous écoutez, qu'il y a eu un remaniement ministériel il y a quelques jours. Et le grand absent, Jean-Marie, semble être le logement. Pour le moment, aucun ministre du logement n'a été annoncé par le gouvernement et le Premier ministre, nouveau Premier ministre Gabriel Attal, un comble quand on sait les difficultés rencontrées par les Français. C'est ce dont nous allons discuter avec notre invité.
Absolument, toutes les semaines aussi, 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio nous posent des questions et vous les mettez en relation avec vos spécialistes.
Absolument, c'est une séquence auquel on tient sur Sud Radio, répondre à nos auditeurs sur des questions qu'ils se posent comme toutes les semaines. N'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de vos problèmes. Cette semaine, nous avons une question, Jean-Marie, sur le déménagement dans un contexte financier c'est difficile. Ouais. Et Dieu sait que les Français traversent des périodes difficiles. Une réalité qui touche beaucoup les personnes, notamment dans les territoires. Et c'est Bérénice qui va nous proposer justement une solution de réaménagement de sa maison ou de son appartement si le budget déménagement est trop serré. Et enfin, Jean-Marie, comme d'habitude, la rédaction vous emmène faire le tour de France des biens coup de cœur de la rédaction, ainsi que la présentation d'un bien viager avec notre partenaire Viagimo.
Allez, tout de suite, c'est parti pour les infos à retenir de la semaine. C'est avec Bérénice Deville, Florio.
Et oui, on va parler des crédits immobiliers sur 30 ans, c'est désormais possible.
Et oui, bonjour à tous. Alors, c'est ce que commencent à proposer certaines banques, des crédits immobiliers sur 30 ans. Pourtant, les règles n'ont pas changé. La durée maximum d'emprunt pour un crédit immobilier est de 25 ans ou 27 ans en cas de travaux. Et le niveau d'endettement ne doit pas dépasser 35% de vos revenus. Ce sont les règles fixées par le Haut Conseil de Stabilité Financière, le HCSF.
Alors, comment c'est possible?
Eh bien, les banques ont le droit de déroger à ces règles pour 20% de leurs dossiers. On va dire que c'est une souplesse que leur accorde le HCSF. Alors, c'est pas nouveau, mais les banques en profitent maintenant de ces dérogations car c'est à nouveau rentable pour elles de prêter de l'argent. Je vous l'avais dit, toutes les grandes banques sont de retour sur le marché du crédit. Donc, leur but, c'est d'avoir de nouveaux clients. Et en rallongeant la durée du crédit immobilier, on augmente la capacité d'emprunt puisqu'on vient réduire les mensualités. Ça peut permettre à des ménages d'emprunter, des ménages qui ne pouvaient pas. Par exemple, si vous désirez emprunter 200 000 euros sur 25 ans à un taux de 4,05%, bon, c'est un bon taux. Vous rembourserez 1061 euros par mois. Et bien, sur 30 ans, vous aurez un taux un peu plus haut, forcément, parce que c'est plus long, donc 4,15. Mais vous serez quand même gagnant puisque vous rembourserez 972 euros par mois. Donc, ça peut permettre à des Français qui se sont vus refuser un crédit de l'obtenir et de devenir propriétaire. Et ce sera des nouveaux clients pour la banque. Vous comprenez maintenant pourquoi elle prête sur 30 ans.
Est-ce que ce prêt de 30 ans, Bérénice, avantagera tout le monde?
Non, alors c'est là où il faut faire attention. Si c'est avantageux pour emprunter la somme de 200 000 euros, là, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas forcément si vous voulez emprunter beaucoup plus. Parce que je vous l'ai dit, quand la durée du prêt passe de 25 à 30 ans, forcément, le taux augmente. Et pour les grosses sommes, c'est plus du tout avantageux. Parce que du coup, il y aura 5 ans en plus avec des intérêts plus importants. Par exemple, si vous souhaitez emprunter 400 000 euros, un crédit sur 30 ans pourrait au final vous coûter 63 000 euros qu'un crédit sur 25 ans.
Alors, sujet pas drôle du tout. Les fraudes dans les dossiers de location sont toujours en augmentation, c'est inquiétant.
Eh bien oui, c'est tellement compliqué de trouver un logement à louer que les fraudes explosent. On va dire que c'est la conséquence logique. On constate différents types de fraudes. Alors il y a petites fraudes. Par exemple, un candidat modifie la date de démarrage de son contrat de travail. Et il y a des fraudes plus lourdes avec carrément des faux documents, souvent administratifs. Par exemple, des fiches de paye ou des avis d'apposition qui sont modifiés. Ou même de faux contrats de travail ou de faux titres de séjour. C'est l'agence ImmoDirect qui est spécialisée en gestion locative qui constate qu'en moyenne en France, hors Paris, plus de 13% des dossiers sont frauduleux.
Et à Paris, c'est le même problème?
Dans la capitale où la tension locative est encore plus forte, c'est très compliqué de se loger. C'est 23% des dossiers qui sont frauduleux, donc quasiment un dossier sur quatre. Et ça concerne aussi la banlieue proche de Paris.
Un peu plus de légèreté quand même. On va terminer avec un duel qui est en train de se dérouler.
Oui, dans le Gers, à Lupiac, plus exactement pour le château de Castelmaur, où serait né
Je ne l'ai pas.
Oh, mais alors Jean-Marie, D'Artagnan, le célèbre mousquetaire.
Oui. En Gascogne.
Alors que ce château est entouré de plus de 70 hectares de terres agricoles est en vente depuis 2015. Deux acheteurs potentiels se sont positionnés l'année dernière. Ils s'affrontent. Alors évidemment, je ne parle pas de combat d'épée. Hein. Le premier à avoir fait une offre de 2 millions d'euros, c'est Yves-Claude, le PDG d'Auchan Retail, qui souhaite s'y installer afin d'y passer une retraite paisible. Mais les collectivités locales se sont empressées de répliquer pour faire de ce château un grand musée national. Ainsi, la communauté de communes de Feuzensac a fait une offre équivalente en représentant un projet d'intérêt général avec le soutien de l'État et en promettant, alors c'est une promesse, hein, un investissement total de 10 millions d'euros. Le 19 décembre dernier, la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, a choisi Yves-Claude, le patron d'Auchan. Les collectivités locales ont décidé de déposer un recours gracieux pour rester dans le jeu. Donc c'est à la SAFER régionale de statuer.
Bon, ça se terminera par un duel. Hein. Comme ça, on verra qui récupère le château. Ce sera le plus simple. Un duel à l'épée, pourquoi pas. Même si c'est interdit depuis quelques décennies. Merci beaucoup, Bérénice de Villefleurio. Restez avec nous sur Sud Radio dans quelques instants. Un seul ministre vous manque et tout est dépeuplé. On va parler de quoi avec votre invité, Sylvain ?
Justement, on va recevoir Henri Buzicazo, le patron de l'Institut des managements des services immobiliers, justement sur ses politiques de logement en déshérence.
Oui. Et il n'y a pas de ministre du logement, et tout simplement. Pas. Vous avez remarqué, il n'y a pas de logement, mais il n'y a pas de ministre du logement comme ça. Peut-être que le problème est réglé, on en parle dans un instant.
Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valency.
Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement. On aurait bien aimé en parler avec le ministre, mais il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle on en parle avec votre invité, Sylvain.
Absolument. Merci Jean-Marie. Effectivement, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, vous pouvez vous manifester au 0826 300 300. Bonjour Henri Buzicazo.
Bonjour Sylvain.
Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes ancien conseiller spécial d'un ministre du logement connu, très connu. C'était Pierre Mianiori.
Oui.
Ancien président de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, délégué général plutôt.
Délégué général, absolument.
Que président. Ancien dirigeant d'anciennes immobilières bien connu. Vous êtes président fondateur également de l'Institut du management des services immobiliers, qui est un centre de formation, une école privée. On peut dire que vous connaissez bien le monde de l'immobilier. Six mois.
Oui, je voudrais ajouter une qualité. Oui. Je suis mousquetaire de l'Armagnac. voilà. Et cette confrérie, évidemment, elle est inspirée par D'Artagnan, hein, oui, château de Castelmort, qui était le chevalier de Batz. Voilà. Absolument. Et je suis très fier de ce lien territorial.
Si je peux me permettre, c'est la plus belle ligne de votre CV, quand même. Ça, c'est pas...
je suis exactement de cet avis.
Oui, voilà. Voilà. Charles de Batz décédé tragiquement à Maastricht, effectivement. Voilà.
En tout cas, D'Artagnan, oui.
Absolument. D'Artagnan. Alors, 6 mois, c'est la durée d'exercice du précédent ministre du Logement, Patrice Bergrit. Il n'aura pas résisté très longtemps.
Précédent ou pas ?
Alors, on ne sait pas.
Non, on ne sait pas.
Oui, on ne sait pas s'il est maintenu ou pas. Alors, vous allez nous dire si vous avez de l'info. Il ne sera, alors, a priori, resté que 6 mois. Nous sommes pour le moment dans le flou artistique. Oui. Aucune, je dis bien, aucune annonce n'a été faite, malgré les vœux qu'a fait Christophe Béchu. À Action Logement, où il a laissé planer l'idée qu'il maîtrisait la délégation du logement. Et en fait, le gouvernement, on ne peut pas franchement dire, encore une fois, 4 gouvernements sur 2 mandats successifs d'Emmanuel Macron, que l'exécutif est décidé à résoudre le problème de l'immobilier. Vous en pensez quoi ?
Je pense que c'est indigne de la République. Se dire que parce que les chiffres sont là, hein, on ne va pas les discuter, quand en gros un ménage sur deux n'arrive pas à se loger, alors le résultat c'est 50% des acquisitions de logements neufs en moins, c'est un gros tiers des transactions qui a disparu au cours de l'année 2023. Ce sont des locations devenues impossibles. J'ai écouté votre sujet sur la fraude. Je ne vais pas aujourd'hui donner mon absolution à ceux qui trafiquent leur dossier de demande de location, mais on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Les files d'attente pour trouver une location dans l'essentiel du territoire ont doublé. Alors voilà, on en arrive évidemment à des comportements de contournement de la loi et de la morale. Quand dans cette situation, il n'y a pas de politique du logement à la hauteur de la gravité, et que donc il n'y a pas de ministre du logement, Parce que c'est ça l'histoire. Il n'y a pas de politique du logement. Moi, j'ai écouté l'autre jour les propos du président de la République, comme, semble-t-il, 8 millions de Français. Mais je crois qu'il en attendait près de 15. Bon. On se lasse un peu de discours qui sont très philosophiques et qui ne se traduisent pas dans les faits. Alors moi, je m'en lasse pas, et puis je suis toujours plein d'espoir. Mais quand j'entends que le président nous propose la simplification, le choc de simplification, ça fait 10 fois qu'on entend ça. Quand j'entends qu'il faudrait libérer les énergies. Mais soyons sérieux. D'ailleurs, que ne l'a-t-il fait il y a 6 ou 7 ans? Ça, c'est un travail de fond. Il faut le faire. Aujourd'hui, on est dans l'urgence.
Henri Buzy-Cazaux, vous avez donné des chiffres. Je vais vous donner un autre chiffre. C'est 2 032 000 foyers aujourd'hui en état de précarité du logement.
Bien sûr.
Proche de la rue. Proche de la rue.
Bien sûr.
En 2025, c'est demain. Toutes les étiquettes G ne seront plus louables, c'est-à-dire qu'en rénovation énergétique. La loi précise la chose suivante. Si un locataire s'aperçoit que son étiquette G, il n'y a pas de travaux programmés, il a le droit de faire un recours contre son propriétaire, de se faire reloger à ses frais, et le propriétaire doit même continuer à faire les travaux et à reloger. C'est presque une ineptie. Comment ne pas instaurer aujourd'hui une urgence nationale? Comment vous expliquer concrètement cette déshérence politique? Est-ce que on a un exécutif qui est aveugle, qui ne voit pas qu'il y a 3 millions de Français aujourd'hui au bord de la rupture? Qu'est-ce qui va se passer? D'où viendra finalement l'allumage de la mèche d'une bombe sociale qui risque d'exploser? Peut-être a-t-elle déjà explosé.
Gabriel Attal, dans le discours de succession à sa prédécesseur, Madame Borne, a parlé des classes moyennes. Là, le soulèvement, il viendra des classes moyennes. L'abbé Pierre, il y a presque 70 ans, a lancé un appel. Il faut se rappeler ce que c'était. C'était pas pour les pauvres, les exclus, les marginaux. C'était pour les classes moyennes qui travaillaient, et les cas qu'on avait sous les yeux, c'était un ménage qui travaillait, février, dont l'enfant était mort de froid.
Bon. Ça sera pratiquement 70 ans jour pour jour.
Quand on a des étudiants, je préside une école, Sylvain, vous avez bien voulu le rappeler, à Lyon par exemple, à Lyon, c'était la ville de l'abbé Pierre, occupe 80% des places de camping. Alors on peut dire, mais les jeunes aiment le camping. Non, on va être sérieux. Nous sommes en janvier. À Lyon aujourd'hui, il fait moins de 3. Eh bien, parce qu'ils n'arrivent pas à se loger. Ce sont des étudiants. Quand des ménages dorment dans leur voiture, il faut être sérieux. On est évidemment dans l'urgence. Le président de la République disait l'autre jour, « Ah, mais personne avant moi n'a fait autant pour l'hébergement d'urgence. J'ai plus que doublé les places. » C'est vrai, 200 000 places. Sauf que 200 000 rapportées à la gravité du problème, malheureusement, c'est une goutte d'eau. Et puis, les classes moyennes, elles ne relèvent pas encore de l'urgence. Absolument. Parce que le basculement, il est très rapide. Hein. Le basculement, c'est un ménage de cadres d'ouvriers qui n'arrivent plus à se loger, qui ne peut plus payer son loyer, et on bascule.
Et la chute peut être effectivement sévère, vous avez raison. Alors, il faut apporter des solutions, parce qu'effectivement, en France, on aime bien aller, mais quand même, on a des solutions. Et les solutions, vous les avez, Henri Buzy-Cazaux. D'après vous, quelles sont les solutions rapides, là, concrètement, si vous étiez aux affaires, à mettre en place pour résoudre ce problème?
Bon, déjà, bien sûr qu'il faut un porteur du dossier. Il faut quelqu'un qui fasse. Bon, je prétends qu'il faut ensuite donner le temps à la personne qui fait. Donc, comme Patrice Vergritte, par exemple, je dis qu'il a commencé à travailler sérieusement. C'est un maire, un ancien maire, président de métropole. Il connaît cette réalité. À Dunkerque, on sait ce que c'est de ne pas arriver à se loger, de devoir loger des ménages modestes ou qui ont un emploi et qui, malheureusement, peinent à trouver une solution. Donc, déjà, faire confiance sur la durée, pas 6 mois, il faut être sérieux, sur la durée à un homme ou une femme sérieuse, mais on avait un bon ministre du logement. Et deuxièmement, bien sûr qu'il y a un travail de fond à faire, mais surtout là, maintenant, pour l'année qui vient, 2024-2025, qu'on aide, qu'on resolvabilise les ménages pour qu'ils puissent trouver un logement à acheter en primo-accession, qu'ils puissent se loger plus aisément. Alors, il y a quelques boosters financiers à mettre en place, et en ciblant sur ceux qui en ont le plus besoin, mais que le prêt à taux zéro aujourd'hui soit réservé aux zones les plus tendues. tendue, alors que les ménages veulent habiter partout, y compris dans les zones moins tendues, les villes moyennes, voire les communes rurales. Il faut écouter les ménages et leur volonté de se loger. Que on exclue la maison individuelle, alors qu'on pourrait évidemment la mettre sous condition d'être respectueuse de l'écologie, moins consommatrice de terrain, mais qu'on aide ces ménages-là. Qu'il n'y ait rien pour ceux qui, aujourd'hui, achètent dans l'ancien, et que les critères de crédit que votre journaliste Bérénice rappelait tout à l'heure, qui sont contraignants. Il n'y a que pour un dossier sur cinq qu'on permet aux banques de déroger aux fameux 25 ans ou aux 35% de taux d'endettement. Mais ce n'est pas sérieux. Ces critères ont été fixés avant l'inflation, avant les dérèglements économiques.
Le marché locatif, alors on peut carrément dire que c'est une catastrophe, puisque pour une offre de location, on peut avoir jusqu'à 250 dossiers.
Oui.
Ça n'est jamais arrivé. C'est une crise inédite dont se victiment les Français directement.
Mais bien sûr.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour fluidifier le marché locatif en sachant qu'aujourd'hui, vous le savez, on a un état de la construction de logements neufs quasi à l'arrêt?
Les investisseurs, aujourd'hui, sont probablement ceux pour qui il faut faire le plus, parce que les circonstances économiques vont faire que moins de ménages pourront acheter. Même si on ajoute aux aides publiques, très clairement, les prix vont baisser, mais pas suffisamment pour resolvabiliser un certain nombre de ménages, parce que les taux d'intérêt sont là, et pour sans doute 3 ou 4 ans, un niveau relativement élevé. Donc, on va se reporter sur la location. Mais derrière la location, il faut des investisseurs, qui sont pas des rentiers, hein, qui sont des apporteurs de services, logements, au titre de la collectivité. Bon, aujourd'hui, on a une baisse de moitié des investissements, c'est-à-dire des gens qui achètent des logements dans l'ancien ou dans le neuf pour les mettre à disposition. Baisse de moitié. Bon, eh bien, il faut que par la fiscalité, mais pas des niches fiscales, par une fiscalité qui reconnaisse cet effort, on les fasse venir, on les fasse revenir, que ce soit des institutionnels. Patrice Vergri te disait, mais les grands investisseurs, je veux les voir revenir. Oui, bien sûr, dans une certaine proportion, mais surtout les ménages. Il y a des gens, Sylvain, comme vous ou moi, qui ne demandent qu'à acheter un logement pour y mettre leur épargne, leur capacité à investir, à condition que la fiscalité reconnaisse cet effort et que, par exemple, s'ils ont des loyers plus modérés, s'ils ont un logement de meilleure qualité environnementale, la fiscalité le reconnaisse. On a une fiscalité obsolète. Ce dossier, le gouvernement Borne a refusé de l'ouvrir il y a un an et demi. C'est indigne.
Eh bien, écoutez, indigne, c'est bien le mot qui va conclure notre entretien, et on suivra d'ailleurs cette évolution avec beaucoup de vigilance. Merci, Henri Buzyn.
Merci, Sylvain.
Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut des managements du service immobilier, une école privée implantée partout en France et qui permet aux jeunes d'accéder au métier.
Exactement, et pourquoi pas au métier de ministre du logement, ça pourrait servir. À suivre sur Sud Radio, on va parler toujours de votre logement et de votre déménagement. Qu'est-ce que ça implique? Ça vous concerne? 0826 300 300. Vous nous avez posé des questions sur Sud Radio, on va y répondre avec nos spécialistes.
Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valency.
Avec tous nos auditeurs au 0826 300 300, ça fait une semaine que vous nous laissez vos messages vocaux. Eh bien, on les écoute et on vous répond avec Sylvain Lévy-Valency et Bérénice de Villefloriot. Et aujourd'hui, ça déménage.
Absolument, ça déménage, c'est bien le mot qu'on peut dire. Bérénice, cette semaine, on a eu un message justement sur cette question cruciale du déménagement qui coûte quand même assez cher.
Et justement, faut que j'allume mon micro, c'est mieux. On a un message de Xavier. Alors Xavier qui a grandi sa famille, hein, qui aimerait déménager, mais qui n'a pas les moyens de le faire. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages en ce sens. Et donc il manque de place. Et voilà, il nous a écrit un message pour nous dire voilà comment faire quand on manque de place, qu'on a besoin d'un peu plus de place. Est-ce qu'il y a des moyens? Bon, il habite dans une maison. Alors ça tombe bien, on a un expert qui s'appelle Joël Girard en ligne du groupe GDID. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez entendu le message de notre auditeur Xavier, hein, qui habite dans une maison, voilà, qui n'a pas les moyens de déménager. Est-ce qu'il y a des moyens de gagner de l'espace?
Alors oui, en effet, il y a beaucoup de moyens de gagner de l'espace. Alors, notamment, le moyen que tout le monde connaît, c'est l'extension, ouais. Mais on rencontre des problèmes au niveau des PLU, donc les PLU, c'est le plan local d'urbanisme, ouais, qui autorise de moins en moins cette manière de gagner l'espace, puisque ça imperméabilise les sols, donc ça accroît des risques d'inondation, etc. Aujourd'hui, on a d'autres solutions qui, donc, dans un premier temps, pour les pays, enfin pour les secteurs dans le nord, on a l'aménagement des combles pour les toits avec des pentes de 60 degrés, donc ça, il y a cette possibilité. Et sur la partie sud, notamment là où je suis, à Hyères, on a des toits qui sont entre 20 et 30 degrés. Donc là, on propose soit les changements de pente ou la réhausse de la structure. Et ce qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est la surélévation.
Alors qu'est-ce que c'est la surélévation ? C'est on construit un étage supérieur, c'est ça ?
Exactement. Donc la surélévation, ça consiste à augmenter la surface habitable en fonction du projet du client et surtout également du budget, ouais. Donc de rajouter un étage supplémentaire sans modification d'emprise au sol. Donc c'est ça l'intérêt.
Ouais.
Et ça s'applique sur la surface soit totale du bien ouais. ou partiellement. Ça peut être 20 ou 30 mètres carrés, par exemple.
Joël Girard, justement, vous parlez de surélévation, mais là, vous parlez de la surélévation pour une maison individuelle.
Là, je parle pour une maison individuelle, mais ça peut également être pour un immeuble.
Oui, c'est beaucoup plus compliqué pour un immeuble, on est d'accord. Hein, il faut l'accord de la copropriété.
Tout à fait, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça
Mais on en voit de plus en plus dans les grandes villes. Hein.
Exactement.
Ça marche, ça, la surélévation, dans les grandes villes ?
Alors ça, bien sûr, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a le vent en poupe et c'est quelque chose qui c'est une solution en tout cas pour gagner de la surface, voire pour louer des biens.
Et je rappelle qu'il y a le dispositif ZAN hein, qui a été mis en place par le gouvernement, le zéro artificialisation net. On n'a plus le droit d'étendre les constructions hein, pour nos auditeurs, donc forcément il faut construire là où c'est déjà construit, donc c'est vrai que la surélévation en fait partie. Alors quels sont les biens qu'on peut surélever ? Est-ce qu'on peut surélever tous les biens ? Là, les auditeurs qui nous écoutent, qui ont des maisons, qui sont propriétaires, voilà, est-ce qu'ils peuvent tous le faire ?
Oui, ajouter un étage supplémentaire et qu'est-ce que ça implique en termes de déclaration ?
Alors, effectivement, tout le monde peut surélever sa maison à partir du moment où elle fait la demande auprès de la commune. Ouais. Tout ça est régi donc par le PLU. Et donc,
le plan local d'urbanisme.
Voilà, le plan local d'urbanisme. Et donc certains bâtiments sont régis aussi par les bâtiments de France, donc il y a des autorisations qui peuvent prendre un petit peu plus de temps pour
pour avoir les autorisations.
Bien évidemment. Ouais. Voilà. Et ensuite ça peut prendre, je dirais entre le premier rendez-vous que l'on fait nous et le moment où on réalise les travaux, il peut se passer entre 5 à 6 mois.
Est-ce que ça coûte cher ? Parce que bon, là pour le coup Xavier, il a pas les moyens de déménager, donc forcément il faut pas que ce soit.
Ça c'est sûr.
Si ça n'ayant coûte plus pas cher qu'un déménager,
je me doute qu'il puisse pas forcément surélever quand on voit le coût que ça représente. Mais voilà, quels sont les moyens de maîtriser les coûts quand on sait qu'aujourd'hui on a une inflation un peu compliqué pour les Français.
Oui, là, vous parliez d'une surélévation de 20 mètres carrés, par exemple. Ce serait l'idéal, ça, pour un bébé.
Et oui.
Combien ça coûte, ça, par exemple ?
Alors, une surélévation de 20 mètres carrés, on est à peu près à 2000 euros le mètre carré pour du gros œuvre, pour la partie gros œuvre, hein, hors d'eau, hors d'air. Et à cela, il faut rajouter entre 700 et 1000 euros, à peu près, le mètre carré pour la partie seconde œuvre, donc plomberie, électricité, placo, etc.
D'accord. Oui, donc c'est quand même assez conséquent. Là, ça fera un petit billet à peu près, en grosso modo, à 60 000 euros pour un petit peu moins, 50 000 euros pour...
Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça.
Est-ce qu'il y a d'autres travaux, j'imagine, en plus ? Ou non ?
Voilà. Alors, ce qui se passe aussi souvent, c'est que les clients souhaitent qu'on réalise, ou des sociétés spécialisées comme la nôtre réalisent les travaux en gros œuvre et elles s'occupent de toute la partie seconde œuvre parce qu'ils connaissent du monde, parce qu'ils savent faire et parce qu'ils ont un peu plus le temps. Parce que...
Est-ce qu'on peut rester à l'intérieur de sa maison quand il y a des travaux de surélévation ou faut qu'on paye l'hôtel en plus ?
Alors non, justement, enfin, notre manière de travailler, donc on travaille avec le réseau Comble dans France qui... Ouais. Fabrique ses propres poutres espaces, donc qui est le plancher sur lequel on passe en déposant des tuiles sans déposer tout de suite la couverture. Et peu de temps après, une fois qu'on a déposé le plancher, à ce moment-là, en quelques jours, on rehausse les murs et on fait la charpente et la couverture, ce qui fait que les gens restent chez eux pendant tout le temps des travaux. Et au moment de l'ouverture de la trémie, donc c'est le passage pour l'escalier, à ce moment-là, il y a que deux jours où les gens ont de la poussière dans leur maison ou appartement.
Donc ça reste possible de rester chez soi ?
Complètement.
Et combien de temps ça prend pour faire ce genre de travaux ?
Alors il faut compter à peu près 15 jours à 3 semaines pour la partie gros œuvre. Et ensuite, le second œuvre, en général, c'est entre un mois et trois mois, en fonction des matériaux que l'on veut mettre, de ce que l'on veut faire. Si c'est qu'une chambre, effectivement, une chambre où il y a peu de cloisons, ça va être moins compliqué que si on veut faire une salle de bain, un WC, plusieurs chambres, etc.
Eh bien, merci beaucoup, Joël Girard. Je rappelle que vous faites partie du groupe GDID.
Je rappelle aussi que vous tous qui nous écoutez, vous avez une question, vous ne pouvez pas déménager ou alors vous avez besoin de le faire, vous voulez faire certains travaux précis, 0 826 300 300, laissez-nous vos messages, on les écoute, on vous répond et on vous apporte des solutions avec toute l'équipe de Sylvain Lévy Valency. Tout de suite, tiens, mais c'est le moment de déménager pour le coup, on va faire un petit tour de France avec vous, mon cher Sylvain.
Absolument, avec notre ami Grégoire pour la rédaction. Où vous nous emmenez, Grégoire? Puisque, alors je sais que vous êtes très fan du Sud, est-ce que cette fois-ci on va un peu plus aller dans le centre? Je crois qu'on va aller pratiquement dans le centre Val-de-Loire.
Ouais, oui, mon cher Sylvain, tout de suite pour se bien proposer en viager avec notre partenaire Viagimo, je vous emmène près de Tours et plus précisément sur l'île Bouchard, une petite île donc, comme son nom l'indique, située sur la Vienne. Une île d'une superficie de 3,48 km² exactement et qui compte quelques 1500 habitants. Elle est connue, alors pour la petite histoire, depuis 1947 par la communauté catholique pour ses apparitions de la Vierge Marie. Donc une île mystique. Notre bien est une maison de 8 pièces de 214 mètres carrés, à la localisation idéale sur l'île, à proximité des commerces, à 20 minutes de Chinon et à 40 minutes du centre-ville de Tours. Récemment rénovée, la maison est composée au rez-de-chaussée d'une entrée spacieuse, d'une salle de bain, d'une grande cuisine équipée et d'une vaste pièce qui fait office de salon et de bureau avec deux cheminées. Au premier étage, vous trouverez 5 chambres, une salle d'eau avec douche et baignoire. Enfin, au deuxième étage, vous aurez un grenier aménageable. Avec cette superbe maison, un jardin arboré de 1450 mètres carrés avec terrasse, dépendance, etc., etc. Une borne de recharge pour voitures électriques et, quelque chose qui va plaire à Jean-Marie, des panneaux solaires sous contrat EDF.
Tout bon, à fait. Pourquoi pas? Écoutez, merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Avec cette maison, vous avez un bâtiment annexe avec studio indépendant de 44 mètres carrés, bien équipé d'une cuisine, salle d'eau et une chambre en mezzanine, ainsi que d'un atelier et d'un préau.
Alors, quelles sont les conditions d'un viager qu'on rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent?
Alors, Sylvain, après cette magnifique description, j'ai le plaisir de vous annoncer que je vous parle d'une maison dont la valeur vénale est de 275 000 euros. Elle est proposée ici en viager occupé au profit d'un homme de 81 ans et d'une femme de 80 ans. Viager occupé, cela veut donc dire que le couple reste y vivre. Si vous voulez l'acquérir, il faudra un bouquet de 42 000 euros et une rente viagère mensuelle de 819 euros. Une vraie belle opportunité donc. Et je vous conseille de foncer, contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Tours ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr.
Alors, on va continuer, Grégoire, avec les coups de cœur de cette semaine. Où est-ce que vous nous emmenez? Je crois qu'on va aller dans les Hautes-Alpes.
Oui, alors c'est une commande spéciale qui m'a été faite pour ce premier bien, Sylvain, qui est situé à Briançon, une ville des Hautes-Alpes et considérée comme la plus haute de France à 1325 mètres d'altitude, une ville dans laquelle est né un certain Luc Alphand. En fait, c'est mon fils aîné qui m'a demandé de vous y emmener et de bien vous dire que si vous voulez aller à Briançon, vous passerez soit par le col du Lautaret, un col situé à 2057 mètres d'altitude.
Alors il doit être fermé en ce moment, je pense.
Il peut être fermé, mais alors du coup, s'il est fermé, vous pouvez passer par le tunnel de Fréjus. Mmh. Et mon fils trouve ça drôle parce que quand vous passez par le tunnel, vous arrivez en Italie. Oui. Donc voilà, Hector, le message est passé. Donc notre bien est un appartement de 82 mètres carrés, un T4 en excellent état, selon l'annonce immobilière. L'appartement est composé d'une cuisine moderne et équipée qui s'ouvre sur un séjour spacieux et lumineux, une chambre confortable et une salle de bain. Au niveau suivant, vous trouverez deux chambres avec rangement et une salle de bain avec WC. L'appartement possède également un garage avec espace de stockage supplémentaire. À noter que notre appartement est très bien situé, à proximité des commerces et avec vue sur les montagnes environnantes. L'ensemble est proposé au tarif de 278 000 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site seloger.com.
En financement, toujours pareil,
avec un apport de 20%, soit 55 600 euros. Un emprunt sur 25 ans à 4,89%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1407 euros.
En tout cas, c'est très beau.
Allez, rapidement,
région.
Pour un troisième bien, Grégoire, direction la Mayenne, oui. La ville de Laval, où j'étais d'ailleurs lundi dernier.
Et ben voilà, j'ai pensé à vous, Sylvain, et je vous propose une charmante maison de ville, une maison de 145 mètres carrés, très bien située dans une rue calme. Elle est composée de 4 chambres spacieuses, d'une salle de bain avec baignoire et douche, d'une cuisine équipée, aménagée et équipée, pardon, ouverte sur une terrasse. Vous avez en plus un grand garage et un grenier. La maison se trouve à 2 minutes des écoles et commerces. Elle est idéale pour une famille. Elle est proposée au tarif de 200 000 euros. Plus d'infos sur le site de www.expfrance.fr. Et alors, pour une solution de financement, Sylvain, un apport de 20%, soit 40 000 euros, et un emprunt à 25 ans à 4,5%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 889,33 € précisément.
Merci Grégoire.
Bon, bah écoutez, merci pour ce Tour de France, en tout cas, ça fait plaisir. Merci à vous, Sylvain Lévy-Valency.
Merci.
Merci à nos invités sur Sud Radio et à toute l'équipe de Parlons Immo. On va se retrouver samedi prochain à 9h15. On continuera à parler de votre logement. En attendant, il est 9h54 et nous n'avons toujours pas de ministre du logement. On verra si ça change d'ici la semaine prochaine. Je rappelle que cette émission sera rediffusée. Elle sera rediffusée ?
Rediffusée le mardi à 12h sur l'application de Radio Immo, sur le site de Radio Immo. Très facile à retrouver.
Exactement, 12h ou alors midi, hein, pour ceux qui le disent comme dans la vie de tous les jours.
Absolument.
Merci beaucoup Sylvain Lévy-Valency. À suivre sur Sud Radio le reste de votre programme. Tiens, une question qu'on pourrait poser à tous les conducteurs. Est-ce que la musique que vous écoutez influence votre manière de conduire ? Oui, non,
ah
non,
bah oui.
Oui.
Oui,
bien sûr.
Forcément.
Exactement, quand vous conduisez à Paris, toujours écoutez du Wagner, ça aide. En tout cas, c'est la question que se posera Jean-Luc Moreau avec Laurence Perrault dans On parle auto sur Sud Radio de 11h à 13h. Avant ça, on va retrouver l'heure libre avec Stéphane Simon et cette question ô combien inflammable. Faut-il boycotter Israël ? Débat extrêmement houleux dans quelques instants. Vous le verrez, en tout cas passionné plutôt que houleux. Dans quelques instants, ce sera juste après les informations de 10h. Je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de matchs de rugby avec de la Champions Cup au programme sur Sud Radio parce que quoi qu'il arrive, on sera toujours là, radio du rugby. Belle journée à vous sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.